Nous allons commencer cette dernière après-midi du colloque avec Patrick Verdun, qui est amateur éclairé et bibliographe de Michel Ragon. Il a recensé des articles sur et de Michel Ragon de façon exhaustive, une somme remarquable qui peut servir aux chercheurs et tout passionné de l'œuvre. Son intervention s'intitule « Les réalités virtuelles des rencontres amicales » de Michel Ragon.
Ben bonjour à tous. L'image qui est à l'écran là est assez mythique parce que ça se passe en Vendée, au refuge de Grala, qui a une histoire en rapport avec les guerres de Vendée. Et donc on voit Françoise Ragon et Michel Ragon devant une étale où il n'y a que des livres de Michel Ragon, quelques livres, je dirais, par rapport à la grande production, bien sûr. Alors, je voulais remercier toute l'équipe du Centre culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale pour le colloque, pour leur accueil chaleureux. L'organisation, c'est impeccable. Merci beaucoup. Et puis, je voulais aussi remercier une personne en particulier qui a partagé pendant plus d'un demi-siècle la création de Michel Ragon et donc a participé à l'élaboration de son œuvre et contribue toujours à la valoriser. Je parle bien sûr de la reine des fées Mélusine, Françoise Ragon. Quel est le lien qui relie l'ensemble des disciplines littéraires prolétariennes, anarchie et architecture explorées par Michel Ragon? C'est l'amitié. L'œuvre de Michel Ragon allie le réel et le virtuel, œuvre dans laquelle il y a une unité de pensée, apprendre et transmettre des savoirs au plus grand nombre. Elle est toujours autobiographique, toujours documentée, elle incite à réfléchir et elle invite au rêve. En voici un exemple. Pendant 30 ans, ma mère m'a écrit chaque semaine de son écriture appliquée, ronde, sans faute d'orthographe, me racontant sa vie, c'est-à-dire rien. Cette première phrase de l'accent de ma mère, c'est de l'horlogerie littéraire au rythme d'antan du balancier de l'horloge de ses grands-parents maternels aux 8 rue des Orfèvres. L'histoire de Michel Ragon commence par « Il était une fois », un génie bienfaisant, aux aptitudes innées, extraordinaires, auxquelles se sont ajoutées des facultés de travail et d'imagination hors du commun. J'ai choisi d'aborder le thème de l'amitié chez Michel Ragon à travers trois exemples surnaturels, mais auparavant j'ai souhaité essayer de répondre à la question que les curieux se sont tous posés, d'où vient Michel Ragon ? J'ai opté pour deux pistes, les influences du terroir à travers des temps ancestraux et les influences surnaturelles. Tout d'abord, les influences du terroir. La lignée des ancêtres de Michel Ragon est toujours sud-vendéenne, mais très diverse dans ses origines rurales. Il a vécu ses 14 premières années sur un entre-deux que l'on voit ici, situé entre la plaine au sud et le bocage au nord, deux régions différentes, humanisées par deux familles de populations opposées par leur caractère, le pléneau et le boquin. Michel Ragon écrit dans l'accent de ma mère « Homme de deux cultures, je suis aussi, comme nombre de mes contemporains, homme de deux civilisations ». Quelles sont ces deux civilisations? Le bocage représenté est celui qui existe encore aujourd'hui en Vendée. Camille, la mère de Michel Ragon, est sortie du bocage. C'est une bocaine, comme ses parents, domestiques et logés comme les animaux du même nom. En Vendée, on ne naît pas à, mais on sort de. Ils ont hérité du caractère fermé, du côté casanier, peureux, soumis. Jean Yol, médecin romancier vendéen, définit le bocage ainsi dans son livre « Essai ». Le bocage livre difficilement son secret. Le buisson limite la vue à la longueur du sillon. De ce qui se passe au-delà, on ne voit rien, mais on entend. Mais comment expliquer le caractère impulsif de Camille ? Elle a vécu 16 ans au château de la Bréchoire et donc a côtoyé les châtelains. Elle a sûrement pris conscience des différences de classe dans la société et que pour sortir de sa condition, il fallait tenter, oser, voire se révolter. D'où ses décisions brutales. Autre origine de Michel Ragon, La Plaine. La plaine représentée est celle d'aujourd'hui, mais avec des éoliennes. Aristide, le père de Michel Ragon, est sorti de la plaine. C'est un pléneau descendant d'une lignée de petits paysans. Jean Yol évoque la plaine. Nous sommes loin de la terre réfractaire du bocage. Dans le livre « Histoire des Vendéens », le pléneau est caractérisé de la façon suivante, sa vive allure, son goût du pragmatisme. Le pléneau a une vision sur l'avenir, est entreprenant, moderne, avant-gardiste, un travailleur acharné. À ces différences géographiques qui ont pu imprégner l'homme, il faut ajouter les bouleversements historiques dans les populations en rapport avec la position de Fontenay. Carrefour important de l'Ouest depuis plusieurs siècles, par exemple pour la route du sel, et impacté par les guerres, d'une part de religion, Fontenay, 8 fois successivement protestante puis catholique au XVIe, et d'autre part les guerres de Vendée, Fontenay alternativement républicaine, puis reprise par les insurgés vendéens. Nous sommes là dans le réel, dans l'héritage de la famille de Michel Ragon, dont il parle dans « Ma Vendée ». Contrairement aux Ragon qui sont des laboureurs, des métayers, des fermiers, pas timides et très durs à l'ouvrage, assez ambitieux dans leur profession, ma famille maternelle est une famille un peu lapin de chou, craintive. La domesticité les a marqués, moi j'ai hérité des deux. Michel Ragon a constamment navigué d'une famille à une autre famille, d'une culture à une autre culture, enrichi de chaque expérience. Il est toujours resté fidèle au fil de ses démarches, à ses valeurs et aux amitiés qu'il s'est forgées. Il est le produit de la rencontre de ces deux entités, d'une part le réel dans la lecture, l'architecture, la réflexion, la création, la découverte, et d'autre part dans le virtuel, l'imaginaire, la capacité à créer des personnages, à imaginer leur destin. Il est l'exemple parfait d'une cohabitation réussie entre la rigueur, la méthode et le laisser-aller créatif. Mais quelles sont les influences possibles liées au surnaturel, aux avatars, à l'inexplicable ? Ce sont les influences extraordinaires. J'ai identifié 4 possibilités. Les livres, bien sûr. Tata, un membre de la famille maternelle, qui gîtait dans une cabane de joncs dans le marais, écrit Michel Ragon dans « Enfance vendéenne ». Il est l'exemple type du voyageur mystérieux, arrivé de nulle part et qui disparaîtra définitivement dans le marais, tel Monsieur Henri et les vieux chevaux, condamnés à être enlisés et digérés par les sangsues dans « Le cocher du Boireau ». Michel Ragon parle de Tata dans « Enfance vendéenne ». Je pris l'habitude de l'accompagner un bout de chemin lorsqu'il repartait vers le marais. Il suivait invariablement la rivière à partir du pont des Sardines jusqu'au pont Neuf. Autre lieu de rêverie, l'hôtel Fontarabie. Dans l'accent de ma mère, Michel Ragon en parle ainsi. L'hôtel de Fontarabie exprimait la grâce. Il m'arrivait de rester planté là, face à la grille, fasciné par les allées et venues des voyageurs et des domestiques. L'imaginaire de Michel Ragon l'incitait au voyage. Autre lieu mythique, Jéricho. Michel Ragon en parle dans Enfance vendéenne. Du temps où nous faisions nos dominicales promenades avec mon père, il arrivait que nous contournions les rails pour aller à Jéricho. Explication de Michel Ragon dans l'accent de ma mère. Pourquoi ce nom de Jéricho ? Le nom existait au Moyen-Âge et en ce lieu s'assemblaient à époque fixe des milliers de bohémiens qui venaient y élire leur roi. Tous ces bohémiens avaient le droit de citer à Jéricho et évidemment épouvantaient les populations, sauf peut-être des autochtones plus tolérantes que Michel Ragon évoque dans l'accent de ma mère. Mais tant de bohémiens, pendant tant de siècles, doivent bien avoir égaré leurs semences dans les utérus paysans. Michel Ragon pense à une symbiose entre paysans et bohémiens. Et il ajoute « Cela expliquerait mieux aussi l'étrange comportement de ma mère, à la fois lapin de chou et renarde. » Michel Ragon place l'atavisme possible du côté de sa mère. De par ses ancêtres, c'est un travailleur acharné assorti d'un rêveur vagabond. Cela nous aide à comprendre sa sensibilité qui le prédestinait sans doute à faire des rencontres surprenantes vers des amitiés surnaturelles. Je vous propose un petit voyage enchanteur au pays d'amitiés réellement réelles ou virtuelles. L'une d'entre elles, essentielle, nous embarque au pays des fées, de la fée Mélusine, une amitié surnaturelle. Un premier rêve prendra une forme féminine réelle, inattendue, à 10 km de Fontenay-le-Comte. Il rencontre sa première fée Mélusine. Michel Ragon déclare dans Ma Vendée « Sans la fée Mélusine, je ne serais certainement pas là en train de te raconter ces souvenirs aujourd'hui. Je serais resté un je ne sais quoi, un travailleur manuel de dernière catégorie en Vendée ou à Nantes. Heureusement, la fée Mélusine m'a touché très tôt de sa baguette. En réalité, j'ai rencontré beaucoup de fées Mélusine. La première était cette jeune fille de la forêt de Mervent qui m'a initié à la lecture, à la poésie, aux rêves. » J'ai rencontré d'autres fées Mélusine dans ma vie, des rencontres de femmes qui m'auront aidé à franchir les obstacles. Mais qui est la fée Mélusine? Quelle est cette légende? Selon l'expression vendéenne, elle est sortie d'un conte écrit par Jean d'Arras à la demande du duc Jean du Berry au XIVe siècle. Mélusine était née. Mélusine, femme serpent, a été maudite par sa mère, Présine, pour avoir voulu la venger de son père, le roi Elinas. Une première question s'impose, faut-il se mêler des affaires privées de ses parents? Pour se défaire de cette malédiction, il faut qu'elle trouve un mari, acceptant de ne pas la voir le samedi, jour de sa transformation. Raymondin de Lusignan sera l'élu. Elle rencontre ce prince dans une forêt, près d'une fontaine. Il accède à cette condition. Ça s'appelle un contrat de mariage. Pierre Dubois, dans la grande encyclopédie des fées, décrit cette rencontre ainsi. Bientôt, tous deux se trouvent, se regardent et se plaisent. Gentement, ils s'entracolent et se baisent. Enfin, s'épousent en grande noblesse. Ça donne envie de rencontrer une fée Mélusine. Comme souvent chez les humains, Raymondin ne tient pas sa promesse. Et le maléfice de Présine, la maman de Mélusine, prend effet. Mélusine s'évanouit dans les airs à tout jamais. Mais pourquoi Michel Ragon considère-t-il Mélusine comme son amie? Quelles sont les valeurs humaines, entre guillemets, de la fée Mélusine qui ont séduit Michel Ragon pour qu'il en fasse sa muse, sa bonne étoile? Car l'amitié implique des notions de respect, d'exigence et de générosité. Elle est la seule fée que l'on peut qualifier de bienfaisante. Elle ne jette pas des sorts, elle n'est pas néfaste. Mélusine est reconnue pour être une femme cultivée et proche du peuple, anticonformiste, humaniste, civilisatrice, conseillère égale à son époux, accessible, attentionnée, simple, chaleureuse, libre. Libertaire, la fée Mélusine. Elle incarne une marginalité opposée aux valeurs conservatrices. Laurence Elix, dans le livre Mélusine, secret d'une fée, écrit. La fée n'est pas seulement fille des livres et de la culture savante, elle est aussi et peut-être surtout fille de la mémoire populaire et du folklore. Voilà de belles qualités auxquelles Michel Ragon a adhéré immédiatement. Une autre vertu qui n'a pas laissé insensible Michel Ragon, Mélusine est une fée bâtisseuse, capable d'édifier d'énormes bâtiments en une nuit. Pour ce faire, il faut avoir des connaissances qu'elle a sans doute puisées dans les 10 livres de Vitruve, architecte romain il y a plus de 2000 ans, dont Michel Ragon parle dans l'avant-propos de son Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme moderne, comme celui qui a le premier abordé l'urbanisme dans la cité. Vitruve professe L'architecture est une science qui doit être accompagnée d'une grande diversité d'études et de connaissances. Il est impossible que sans fidélité et sans honneur, on puisse jamais rien faire de bien. C'est une architecte émérite qui possède toutes les qualités requises, décrites par Vitruve, pour que Michel Ragon soit immédiatement en osmose avec elle. Elle en fit bénéficier régulièrement, fidèlement, amicalement, celui qui deviendra un maître d'œuvre magistral qui a tant de fois élaboré des encyclopédies titanesques à la portée internationale des érudits, mais aussi et surtout à celle des plus humbles de l'échelle sociale. Mais outre la première Fémélusine croisée en forêt de Mervan, quelles pourraient être les autres Fémélusine rencontrée par Michel Ragon? Dans les moments les plus durs, 1945-1947, période de disette extrême, ne serait-elle pas Lucie, Lydie ou Huguette, qui sont au cœur de foyers de production prolétarienne et libertaire? Lucie Poulaille, qui l'a accueillie comme son fils. Lydie Bourgeois, dont Michel Ragon rapporte les propos suivants dans son livre « D'une berge à l'autre », la généreuse hospitalité de Lucien Bourgeois et de sa femme. Huguette de la Touche, dont l'envoi du livre « Les écrivains du peuple » est enrichi des propos suivants. Pour Huguette et Germain de la Touche, ces portraits d'amis, en les remerciant de leur aide morale, matérielle et surtout de leur amitié, avec ma très vive et sincère affection. Trois noms cités dans ses remerciements en première page de son premier livre « Les écrivains du peuple », nom associé à celui de Tristan Rémy. Ne serait-elle pas aussi la première femme de Michel Ragon, Sally Ward? Elle porta le manuscrit « Expression et non-figuration » en 1951 à la galerie Arnault, qui accepta immédiatement ce manifeste sur la peinture. Témoignage de Jean-Robert Arnault dans « Autour de Michel Ragon ». Et c'est ainsi que tout commença entre Michel et nous. Nous en étions à l'une de nos premières expositions, quand entra un jour dans notre boutique une jeune femme un peu garçonnière, réservée, qui, avec un fort accent anglais, nous proposa une plaquette à la couverture marron que nous acceptâmes avec empressement. Ne seraient-elles pas ces femmes galeristes qui participèrent, selon le titre du livre de Michel Ragon, à l'aventure de l'art abstrait, et qui, pour certaines, organisèrent des expositions pour ses amis peintres, amis IES et S. Denise René, Colette Allendy, Lydia Conti, Jeanne Bucher, Iris Claire, Florence Banque, Suzanne de Koning, Lara Vinci, Cérès Franco ou Dina Vierny, modèle égérie du sculpteur Aristide Maillol, Dina dont Michel Ragon utilisa inconsciemment sa plastique et sa gouaille afin de créer son personnage Flora dans la mémoire des vaincus. Ne serait-elle pas Huguette Arthur Bertrand, une amie peintre habituée des samedis d'Atlan, ou Martha Pan, sculptrice du Tech, exposée en 1956 sur le toit-terrasse de la cité radieuse Le Corbusier à Marseille, lors du premier festival de l'art d'avant-garde, dont l'animateur pour les arts plastiques était Michel Ragon. Ne serait-elle pas enfin cette jeune fille qui initia une rencontre entre Michel Ragon et James Guittet à Nantes en 1943? Michel Ragon raconte dans « J'en ai connu des équipages ». Grâce à mes bonnes fées, toujours Mélusine, qui s'est incarnée plusieurs fois dans des personnages féminins, une jeune fille m'a dit un jour qu'elle voulait me présenter un élève de l'école des Beaux-Arts, que nous étions faits pour nous entendre. C'était James Guittet, j'avais 19 ans, lui 18. Mais qui est James Guittet? C'est un enfant non désiré, né à Nantes le 11 avril 1925, dans une famille ouvrière pauvre mais très unie. Son père et sa mère travaillent beaucoup, son père est engagé politiquement, sa mère, occupée dans un commerce dans la journée, a seulement le temps de lui donner son biberon, que James Guittet ne réclame pas. Il s'adapte à cette situation en se créant très rapidement son univers dans un ailleurs, le monde des adultes, le bruit, l'agitation le révulse. Guité nous parle dans les forces du silence. Mon entrée dans la vie se fit sous le signe du silence. Au berceau, je restais les jours et les nuits sans un cri. Je rentrais dans la vie sur la pointe des pieds, sans solliciter, sans élever la voix, et ce fut ainsi toujours. Guité est un enfant entêté et travailleur. Il va à l'essentiel en dehors du temps présent. Il est très tôt inattentif en classe. L'école est un calvaire. Il est moqué par ses camarades. Il a horreur de la foule. Il est en quête de l'individu, entre guillemets. Michel Ragon a décrit son ami dans James Guité et le naturalisme abstrait. Le rêveur, l'idéaliste, l'homme en dehors du temps, qu'est James Guité, etc. Par mimétisme, il a retenu de ses parents qu'il faut être exigeant de soi-même avant d'exiger des autres. Des valeurs qui ne lui étaient pas enseignées, mais données à voir. C'est le médecin de famille Chavannes qui l'encourage à persister vers l'art. Au Beaux-Arts, à Nantes, c'est un élève isolé. Ne faisant pas partie du cénacle des élèves bourgeois, il est renvoyé des Beaux-Arts car le massier, qui est l'élève chargé de recueillir les cotisations et de pourvoir aux dépenses communes de la promotion, est intervenu pour son renvoi. James Guité fut ensuite réintégré. Il devient professeur de dessin. Sa peinture est qualifiée par Michel Ragon de « paysagisme abstrait » puis de naturalisme abstrait. James Guité esquisse un autoportrait dans le catalogue de l'exposition Galerie Gilles Corbeil à Montréal. « Je suis celte, je porte en moi cet esprit païen, visionnaire, qui confère à la nature, à l'arbre, à la pierre, des pouvoirs surnaturels. » Quelles sont les concordances de trajectoire entre Michel Ragon et James Guité ? Ils ont les mêmes origines très modestes. Ils sont passionnés par l'art, poésie, peinture, architecture. Ce sont des travailleurs acharnés. Ils ont été régulièrement empêchés d'accéder à la connaissance de par leur milieu social. Ils luttent tous les deux pour une survie intellectuelle et veulent parvenir sans renier leurs origines. Ils ont des désirs d'un ailleurs pour rêver et d'un temps de méditation. Michel Ragon à Nantes, en 1943, est isolé, toujours en quête de connaissances, rejeté toujours vers sa classe de pauvres, de prolétaires. Il est humilié régulièrement, notamment on lui interdit l'entrée de la bibliothèque de Nantes, qui se trouvait peut-être au musée actuel. James Guité aussi est isolé, et subit régulièrement des pressions afin qu'il se dirige vers une activité industrielle. La guerre, les conditions de vie très pénibles sont un lot commun. Quels sont leurs avis croisés de cette période et de leur rencontre ? James Guité nous donne le sien dans l'effort du silence. J'ai toujours pratiqué l'économie des rapports humains, ne m'attardant sur ceux-ci que s'ils sont assortis d'amitié vraie. Michel Ragon nous éclaire sur cette rencontre dans le catalogue James Guité pendant 30 ans. James Guité a été pour moi, dès la première rencontre, un événement merveilleux, extraordinaire, inespéré. Le premier ami, la première personne avec laquelle je puisse avoir des conversations artistiques et intellectuelles. Aussi, dans Expression et non-figuration, dédicacée à, je cite, « En particulier à James Guité, mon premier ami, peintre, mon premier ami ». L'état d'esprit de leur rencontre est parfaitement représenté par le tableau réalisé par James Guité de son ami, Michel Ragon. La source du savoir seul est éclairée. Celui-ci, tête baissée, regard fixé vers le sol, élabore des ailleurs dans une sérénité de l'instant, en confiance devant son ami le peintre, sans doute attentionné à capter la vérité de leur union. Mais comment s'est manifestée d'une façon magistrale cette amitié ? L'amitié est magnifiée lorsqu'il participe à sauver un ami de sa détresse. Ce que fit Michel Ragon en 1947. À ce moment précis, il faut bien reconnaître que Michel Ragon est le créateur, avec James Guité, de la première intelligence artificielle. Jules Panfac. Pourquoi ? Car c'est un personnage imaginaire, fruit de deux intelligences très librement créatives. Jules Panfac est né Vacher de Loire-Atlantique, poète et peintre. James Guittet et Michel Aragon ont uni leurs talents d'écrivain et de peintre, association gagnante capable de piéger Paulhan et Dubuffet. Jean Paulhan, écrivain, critique littéraire, notamment à la NRF puis chez Gallimard, amateur d'art informel, appellation qu'il inventa, est un intellectuel renommé. Il avait fait installer en haut de l'escalier qui menait à son bureau à la NRF un miroir déformant afin de déstabiliser ses visiteurs, ainsi ridiculisés, interloqués, avant de rencontrer le maître, lui, parfaitement formaté, convaincu de sa supériorité. Dubuffet, peintre féru d'œuvres produites par des marginaux de tous ordres, collectionneur d'art brut, proche des milieux intellectuels parisiens, mais indépendant, est très décrié par les médias de l'après-guerre. En utilisant le personnage caricatural de fiction créé par Alfred Jarry, ces médias avaient pastiché une publicité mythique d'apéritif du beau, du bon, du bonnet, ainsi métamorphosée en du bu, du bluff, du buffet. Ces attaques ont peut-être encouragé Michel Aragon à prendre parti contre la critique officielle pour cet art particulier, l'art brut. On peut expliquer les causes de la naissance géniale de Jules Panfac de deux façons différentes qui ont toutes les deux atteint ensemble les objectifs recherchés. D'une part, pour piéger Paulhan qui agaçait Michel Aragon avec, déclare-t-il, dans d'une berge à l'autre, son snobisme du bizarre. Et Dubuffet, tous deux chercheurs de talents régionaux, poètes, peintres et marginaux comme Chessac, aussi peut-être afin d'y trouver des inspirations pour leur propre production. D'autre part, et c'est à mon sens la raison profonde, afin de sauver son ami en danger, Michel Aragon est rejoint à Paris en 1946 par James Guittet. Celui-ci tombe gravement malade. Après quelques mois de disette et de logement insalubre, il est obligé de retourner à Nantes. Aux vacances d'été 1947, Michel Aragon rend visite à son ami à Nantes. James Guittet parle de cette période dans l'effort du silence. Aux vacances d'été, Michel Aragon me rejoint à Nantes. Je suis déprimé. Il cherche à me redonner le tonus. Il imagine de créer avec moi un personnage. C'est le temps de l'art brut. Dubuffet cherche à découvrir des poètes et peintres du peuple. Hors du circuit professionnel, nous donnons naissance à Jules Panfac, peintre, poète, garçon de ferme. C'est un grand succès. James Guittet retrouve les couleurs de sa palette, l'envie de peindre, l'envie d'exister. Jules Panfac est exposé à la galerie L'Arc-en-Ciel à Paris en 1948, aux côtés de Guittet et Barré, et connaît un succès retentissant auprès de Paulhan et de Dubuffet. Chessac lui-même entretient une correspondance avec ce Vacher génial qui a opportunément une boîte à lettres à Nantes, dont le dépositaire est en fait Michel Aragon. Jules Panfac est reconnu comme artiste du mouvement de l'art brut. James Guittet avoue à Michel Aragon qu'il prend un grand plaisir à lire les faux poèmes de Jules Panfac, alias Michel Aragon. Paulhan et Dubuffet décident d'exposer ce génie à la galerie Drouin, place Vendôme, fief incontesté et permanent de l'art brut dans le sous-sol. Le jeu devient dangereux. Michel Aragon et James Guittet dénoncent la supercherie. Jules Panfac, un condensé de deux talents. Talents qui vont exploiter les deux amis et les amener à des créations communes. De cette communion d'idées vont naître deux documents essentiels, représentatifs des valeurs qu'ils défendent, dont les titres sont révélateurs. Les rêveries de la matière, en 1965, œuvre pour laquelle ils ont associé Bachelard, le philosophe de la nature dont James Guittet se sentait très proche et qu'il a sublimé à travers les 10 estampes réalisées à cet effet sur sa presse à Versailles. James Guittet nous en parle. Les rêveries de la matière, documents réels, concrets, qui nous plongent dans le surnaturel, l'au-delà, le possible plongé dans l'impossible, dans le virtuel. Du magma de la pâte sort la rêverie, Bachelard, l'eau, le feu, les fées. Michel Ragon nous donne son avis dans le catalogue J'aime guitter, exposition Galerie Gilles Corbeil à Montréal. J'aime guitter a beaucoup rêvé au bord de l'Atlantique. Face à l'étendue démesurée des flots, d'où peut-être cet espace lyrique ample, cette rêverie de la matière. Deuxième création, Les forces du silence en 1973, un livre mémoire des deux amis dont le titre reprend les préoccupations majeures de J'aime guitter, le silence d'une part et d'autre part l'engagement de Michel Ragon, les forces qu'il déploie afin de vaincre l'adversité. D'une amitié réelle avec J'aime guitter à une amitié virtuelle, hors du temps, il n'y a qu'un pas avec Rabelais. Mais qui est Rabelais ? La biographie de Rabelais est difficile à élaborer du fait d'incertitudes par manque d'archives. Il disparaît parfois pour se faire oublier, pour étudier ou afin d'échapper à des dangers. Les faits marquants de son parcours sont les suivants. C'est une biographie succincte, voire superficielle. Il est né à côté de Chinon, d'une famille bourgeoise aisée à la fin du XVe. Certains avancent 1494 de père avocat. Pour sa formation, il est envoyé au couvent de la Baumette près d'Angers où il fait connaissance des quatre frères du Bellay. Il devient novice au monastère des Cordeliers du Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Comte, qui est un ordre franciscain, ordre mineur. Son arrivée varie en fonction des biographes ou romanciers biographes autour de 1510. Rabelais entretient une correspondance avec Guillaume Budet, Clément Marot, poète à la cour de François Ier. Rabelais part chez les moines bénédictins de Maizet, à quelques kilomètres, auprès du père abbé Geoffroy d'Estignac vers 1523. Il rejoint pour étude la faculté de médecine de Montpellier, ce qui lui permettra de soigner et guérir Jean du Bellay en 1533 à Lyon. Il voyage beaucoup, accompagne à Rome le cardinal Jean du Bellay, ambassadeur du roi de France, revient à Lyon plusieurs fois où il rencontre le meilleur imprimeur de France, Dolé. Il meurt à Paris en 1553. Sa vie est donc partagée entre ses études, l'écriture, les éditions de ses écrits, ses protecteurs, ses fuites, ses refuges à Maizet, afin d'échapper à la mort. Il est à la fois dépendant des pouvoirs, par exemple avec Jean et Guillaume du Bellay, mais il n'aura de cesse de lutter contre toutes les intolérances. Pourquoi Michel Ragon est-il séduit par Rabelais ? Michel Ragon nous donne son sentiment dans le magazine littéraire. Mais Rabelais, pour moi, est-ce vraiment un écrivain ? Plutôt un vieil ami, un compagnon de route. Compagnon de route, effectivement, car Michel Ragon a beaucoup de points communs avec Rabelais. L'humanisme est une lutte contre toutes les intolérances, et dans ce cas, de la défense des humbles, des sans-grades, du peuple toujours opprimé, de son langage, de ses traditions. Pour pouvoir argumenter, écrire, réfléchir, un autre point commun les rassemble, c'est cette boulimie, cette soif d'apprendre, afin d'acquérir une culture encyclopédique et pouvoir communiquer clairement et utilement auprès de toutes les populations. Ces acquis permettent ainsi une liberté dans les propos, une indépendance par rapport aux puissants et une facilité à utiliser l'humour, la caricature, l'utopie, afin de pourfendre les idées reçues au risque de passer pour un provocateur, un écrivain engagé, libertaire. Cette persévérance d'esprit et d'idées tend toujours à défendre la dignité de l'homme. Mais comment se présente Fontenay-le-Comte lorsque Rabelais arrive dans cette ville ? Michel Ragon nous le dépeint dans L'accent de ma mère. Au XVIe siècle, Fontenay-le-Comte est une ville prospère dont la bourgeoisie humaniste et lettrée virera bientôt au protestantisme. Parmi ces bourgeois, le magistrat André Tiracot est une vedette. Michel Ragon à nouveau dans le même livre. Mais au XVIe siècle, la chose n'est pas si simple. Rabelais, dans son couvent des Cordeliers, du Puy-Saint-Martin, traduit Hérodote, mais il lit aussi les almanachs de colportage. Il peut converser en grec avec ce bourgeois érudit qu'est Tiraco, mais il parle parfois avec les paysans des foires. Dans son roman, Michel Aragon fait arriver Rabelais vers 1508, ce qui lui permet de dire que Rabelais a été présent à Fontenay le même nombre d'années que lui, c'est-à-dire 14 ans. Ce n'est pas anodin dans l'esprit d'une cohabitation imaginaire possible dans une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'idées. Le début du XVIe est la période la plus florissante de la ville. Fontenay, à l'époque, est la capitale du Bas-Poitou avec l'éclosion de nombreux érudits. Rabelais, découvrant la ville, l'aurait surnommée « source des beaux esprits ». Cette citation, enjolivée ultérieurement, est devenue la devise de la ville gravée sur la fontaine des Quatre Tias érigée en 1542. Les principales personnalités faisant partie d'un cénacle d'érudits sont Tiraco, juriste conseiller au Parlement de Paris, Pierre Brissot, médecin, et le puissant seigneur Geoffroy d'Estignac, prieur et évêque de l'abbaye bénédictine de Maizet, tous érudits hellénistes. Mais de quelle façon Rabelais peut-il percevoir le couvent à son arrivée? Michel Aragon nous le décrit dans le roman de Rabelais. Et il vit le couvent tel qu'il était, mesquin, minable, malodorant, avec des moines, ses confrères, qui s'y prélassaient comme des rats dans un grenier à blé. Soudain, l'ignorance satisfaite d'elle-même, de ses compagnons, lui répugna autant que la saleté de leur corps. Rabelais est un tribun, un orateur remarquable. Il a la liberté d'aller prêcher devant les foules, surtout pendant les grandes foires, ce qui lui permet d'observer et d'échanger avec le peuple. Il espérait devenir un pêcheur d'âmes. Mais c'est lui qui est attiré, happé par le monde des humbles. Assoiffé de culture, il fréquente assidûment la bibliothèque du couvent que seul un autre moine visite. Il se lie immédiatement d'amitié avec ce moine très particulier, Pierre Ami, philosophe, érudit, ayant la connaissance du grec. Rabelais apprend le grec avec Ami. Il peut ainsi se nourrir de connaissances dans tous les lits de la bibliothèque du couvent. La médecine, la littérature, la philosophie, la jurisprudence, et ainsi assouvir sa soif inextinguible de tout embrasser des savoirs humains. Pantagruel ne veut-il pas devenir un abîme de science? Michel Aragon nous parle de Pierre Ami dans L'accent de ma mère. On a dit de l'église protestante de Fontenay qu'elle était l'une des plus anciennes de France et qu'elle naquit en fait dans la cellule de Pierre Ami. Dans ce même couvent des Cordeliers, Pierre Ami, si cher à Rabelais et dont Erasme dira « Je n'ai jamais vu de mœurs plus pures que les siennes ». Ami et Rabelais, Rabelais fréquentent le cercle culturel de Tiraco. Rabelais devient l'ami de Tiraco, grâce auquel il entre en correspondance avec l'humaniste helléniste Guillaume Budet. Mais en 1523, les théologiens de la Sorbonne font interdire l'étude du grec, langue païenne, le bûcher est proche. Michel Aragon dira que Rabelais avait toujours le feu aux fesses. Les livres de grec sont confisqués à Rabelais et Ami. Ils sont en danger. L'intervention de Tiraco permet à Rabelais d'aller se réfugier à Maizet sous la protection de Geoffroy d'Estignac, évêque du diocèse. Ami, pour sa part, se rend en Suisse. Cette version des faits est réaliste, voire certaine, d'autant plus qu'elle est validée par des historiens patentés. Mais, suite à une découverte, je souhaite fournir une autre interprétation des événements tels qu'ils se sont possiblement produits. C'est une fiction. Fiction sur une amitié hors du temps de deux libertaires. Dans son livre « L'accent de ma mère », Michel Aragon a écrit qu'il a vu Rabelais dans les rues de Fontenay-le-Comte. D'autant plus que, tant j'y réfléchis, qu'il me semble l'avoir vu dans les rues de Fontenay. Sa robe de bure sanglée par une corde nouée autour des reins, pieds nus dans ses sandales, la barbe rousse et le crâne rasé. Michel Aragon, c'est certain, a rencontré Rabelais à Fontenay. Rabelais arrive à Fontenay début 16e par la patache de la poste aux chevaux dont le relais se trouve à l'emplacement même de l'hôtel Fontarabie actuel. C'est l'été, il fait chaud et sec. Il connaît la notoriété de la ville avant son arrivée. Cette capitale du Bas-Poitou a une grande renommée qui dépasse les frontières administratives. Il tombe en extase devant l'opulence des habitations. Michel Ragon nous décrit son arrivée dans « Enfance vendéenne ». Le moinillon qui vient terminer son noviciat chez les cordeliers du couvent depuis Saint-Martin s'attarde à contempler les belles façades des maisons bourgeoises, hôtels particuliers à pilastres, à bandeaux sculptés et aux niches à coquilles. Il a aussi eu vent de l'activité artisanale intense, en particulier de la rue des Loges. La loge est le nom de chaque échoppe des artisans et non pas d'une loge maçonnique, quoique pour le maçon c'est discutable. Il se dirige donc vers cette rue très proche du relais de la poste aux chevaux et déambule lentement au hasard des rencontres avec les artisans et les autochtones avec qui il prend le temps de converser. Arrivé à l'extrémité de cette rue, il décide de passer à gué la rivière Vendée, pratiquement à sec en cette période de l'année. Rabelais se trouve face à une rue très courte, très étroite, la rue des Orfèvres. Il distingue à sa droite une scène peu banale, exceptionnelle. Un jeune homme est assis devant l'entrée d'une maison en train de lire. Il s'approche lentement jusqu'au moment où le liseur est parasolé par l'ombre de Rabelais. Parasolé n'est pas dans le dictionnaire. Attentionné par sa lecture et agacé par ce manque de lumière soudain, il est prêt à dire à l'homme qui se tient devant lui, tel Diogène à Alexandre le Grand, c'est intéressant ça, « Ôte-toi de mon soleil ».
Merci Patrick. Merci.